C'est d'accord avec vous, le sujet est particulièrement intéressant. Donc on va poursuivre. Donc maintenant que tout le monde est bien ressourcé, nous vous proposons d'écouter les intervenants qui vont nous éclairer sur la demande de cette évaluation. Qui la demande? Dans quel contexte? Pourquoi? Dans quel but? Alors nous vous précisons qu'un temps dédié aux questions sera accordé à la toute fin de l'ensemble des interventions. Donc on va vraiment les enchaîner les unes après les autres et là vous pourrez enfin prendre les micros et poser toutes les questions. Donc maintenant nous allons commencer par donner la parole à monsieur Cyril Lacombe, procureur de la République près du tribunal judiciaire de Poitiers. Monsieur, vous avez 10 minutes.
10 minutes. On fait partir le chrono et je vais m'y tenir. Merci beaucoup, madame. Merci à la présidente de cette session, de ce colloque, de m'avoir convié. C'est un honneur pour moi, devant un tel aréopage, d'intervenir et de vous apporter, de vous présenter. Le sujet a déjà été en partie abordé. La vision que peut avoir un magistrat, les besoins, l'utilité, la nécessité. On disait à l'instant en aparté qu'on est, condamné à travailler ensemble, médecine légale et monde judiciaire, au niveau pénal, condamné dans le bon sens du terme. On doit s'entendre. Et si on ne s'entend pas, il faut faire en sorte de réussir à s'entendre. J'étais dans des précédentes fonctions et je salue le docteur Remouet qui est là. J'étais procureur à Coutances et j'ai travaillé très bien avec l'UMJ de Saint-Lô. Et j'ai vu là tout l'enrichissement qu'on pouvait avoir les uns avec les autres, puisque aujourd'hui, dans la mission de l'autorité judiciaire, l'une d'entre elles et la principale est la protection des intérêts de la victime, la prise en charge de la victime, parmi donc les différentes casquettes. Et je vais évidemment, cet après-midi, vous aurez des magistrats du siège qui vous expliqueront, on va dire, après que le filet était lancé, qu'est-ce qu'ils vont récupérer. Moi, je me situe en amont, au stade de l'enquête, mais pas que, puisque le parquet intervient à tous les niveaux. L'enquête, évidemment, l'orientation, les poursuites et également l'exécution des peines. Et on voit que la notion d'ITT, la notion de connexion, de contact avec la médecine légale est fondamentale. Et le retentissement psychologique au sein de l'ITT va au-delà de l'ITT traditionnel, puisque là où un corps meurtri ne va être meurtri que par un certain type d'infraction. Un esprit meurtri, lui, va l'être par un grand nombre d'infractions et quasiment toutes les infractions du code pénal, à partir du moment où on a une victime, vont pouvoir entrer dans le champ de compétences et dans le champ d'appréhension de cette notion de retentissement psychologique. On pourra dire un mot des victimes d'escroquerie, des cyber-escroqueries par Internet, et qui peuvent les vivre très mal. Donc évidemment, corporellement, il ne se passe rien, mais dans leur esprit, ça peut être compliqué. Donc cette évaluation du retentissement psychologique peut avoir une importance dans la fourniture d'un certificat sur réquisition qui va être utilisé en médecine. Pour moi, l'ITT, c'est un peu le fil rouge de la vie de la victime au sein de la justice et de la procédure pénale. Mon intervention, je l'ai structurée d'une part et rapidement sur aujourd'hui, quel est le rôle de l'autorité judiciaire sur la prise en charge de la victime, et donc évidemment le couple victime-ITT, ou plutôt ITT-victime, est intimement lié, en vous rappelant quels sont les grands points de passage et les grands moments dans une procédure pénale où il y a un échange et où on va prendre en compte le préjudice et la situation de la victime. Quelques exemples en lien avec des peines particulières ou des qualifications pénales particulières où là, l'ITT ou le retentissement psychologique a toute son importance, puisque, et je l'ai déjà évoqué, il y a des infractions où il n'y a pas de conséquences physiques immédiates. Et puis un mot d'ouverture sur la question de la temporalité de cette évaluation qui permettra ensuite de passer la main. Tout d'abord, pour vous dire que le parquet intervient à tous les stades de la procédure, je vous l'ai déjà indiqué, aussi bien au niveau de la qualification pénale des faits, au niveau de l'orientation de l'enquête, dans le choix de la réponse pénale et enfin dans le cadre des décisions de justice et de leur exécution. Et c'est sur réquisition du procureur de la République, du parquet, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire, que vous intervenez, que vous êtes requis dans le cadre d'une évaluation de victime et de la prise en compte du retentissement psychologique pour établir l'ITT. Les nombreux textes qui font du procureur le point central et qui intègrent totalement la notion de victime et donc de sa situation psychologique, les textes sont à la fois européens et à la fois dans le droit national et issus du code pénal. J'ai noté, et je ne l'avais pas remarqué avant de travailler cette conférence, la directive européenne de 2012 qui traite de la question de la place de la victime et qui indique que la protection, y compris contre le risque d'un préjudice émotionnel ou psychologique, est un axe central, c'est un devoir des États et c'est un devoir au-delà, et évidemment le bras armé des États dans ce domaine, de l'autorité judiciaire. Donc les parquets, la justice, se doit de prendre en compte le préjudice psychologique et le préjudice émotionnel pour éviter que celui-ci se renouvelle et en même temps pour permettre son indemnisation. Bien sûr, il y a l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui rappelle que l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes. Pourquoi je vous fais ce rappel ? Parce que ça vient montrer l'importance. Et le thème du séminaire, c'est l'évaluation du retentissement psychologique dans la procédure pénale. Donc c'est pour vous montrer que votre activité, cette évaluation est fondamentale et prévue par un certain nombre de textes qui vont vraiment être le fil rouge de l'activité des parquets et également du processus judiciaire. L'article 39.3 du Code de procédure pénale qui rappelle que dans le cadre de ses attributions de contrôle de la police judiciaire, le procureur de la République doit mettre en œuvre des manifestations qui tentent à la manifestation de la vérité, cette recherche de vérité judiciaire, et apparaissent la notion de respect des droits de la victime. Donc qui dit respect des droits de la victime dit évaluation du préjudice de celle-ci. Plusieurs étapes dans la prise en compte et dans l'analyse de la situation de la victime. Évidemment, l'enquête initiale et dès la procédure de garde à vue, où on va se servir de la situation de la victime, puisque un des motifs de placement en garde à vue et de prolongation de garde à vue, c'est notamment d'empêcher la pression sur la victime ou de garantir la mise en œuvre de mesures destinées à faire cesser l'infraction. Donc on voit que dès le départ, quand une enquête est signalée à un parquet, une enquête en lien avec un préjudice potentiel sur une victime, la situation de celle-ci est fondamentale dans le choix que va avoir le parquet de la réponse pénale et de la gestion de la procédure. On est là vraiment dans la mécanique procédurale. Quels sont les outils qui sont à la main d'un procureur, d'un parquet, pour protéger les intérêts de la victime? Ça peut être le placement en garde à vue, qui n'a pas que cette finalité, bien évidemment, c'est de faire émerger la vérité judiciaire, donc de confronter le suspect ou le mis en cause à ses déclarations et aux déclarations de la victime, aux déclarations des témoins. Mais on voit que l'un des motifs de placement en garde à vue, l'un des motifs de prolongation de la garde à vue, c'est notamment de préserver et d'empêcher une pression sur la victime. Au même titre, les mesures de sûreté avant jugement, placement en détention provisoire, placement sous contrôle judiciaire, donc quand on a clôturé l'enquête initiale ou qu'on est au stade de l'instruction. Là aussi, on va prendre en compte l'intérêt de la victime ou la préservation de sa sécurité. Et ça va être un des motifs prévus par les textes qui va permettre de placer quelqu'un en détention provisoire ou de le placer sous contrôle judiciaire, selon évidemment le degré de gravité de l'infraction. Même chose pour le cautionnement, les sûretés réelles, le placement de la personne mise en cause sous assignation à résidence sous bracelet électronique. Pareil, on va prendre en compte, sans citer bien évidemment aujourd'hui le bracelet anti-rapprochement dans les procédures de violence intrafamiliale, la victime est au cœur de la procédure pénale et qui dit victime dit ITT, qui dit ITT dit évaluation, évidemment c'est le fil rouge, et dit pour l'évaluation l'analyse de son retentissement psychologique. L'intérêt de la victime est aussi pris en compte dans le cadre des alternatives aux poursuites, puisque vous savez que schématiquement aujourd'hui, quand une affaire est signalée au procureur, il a trois possibilités. La première, il classe, en estimant que les faits ne sont pas constitués ou qu'il y a pas matière à poursuivre. La seconde, la plus classique, il va faire des poursuites traditionnelles, renvoyées dans le tribunal. Et la troisième, ça s'appelle la troisième voie ou les alternatives aux poursuites, il va mettre en place un avertissement pénal probatoire, une composition pénale, une médiation pénale. Et là aussi, on voit apparaître la notion de victime. Et c'est même imposé par le code pénal, par le code de procédure pénale, qui vient dire, attention, vous les procureurs, pour mettre en œuvre ces procédures d'alternatives aux poursuites, qui sont, on va dire, des sous-poursuites, vous devez prendre en compte les intérêts de la victime. Donc vous devez faire en sorte d'avoir une évaluation de leur préjudice, évidemment, quand il s'agit d'une victime ou d'une infraction qui a généré une victime. Enfin, cet ITT et ce retentissement psychologique, il est fondamental dans la fixation de la peine, puisque la fonction de la peine, et je relis cet article rapidement du code pénal qui contient là une synthèse intéressante et qui vient définir quelle est aujourd'hui la fonction de la peine, hein, quel est le droit positif qui vient expliquer aux juridictions quelle est la fonction de la peine qu'ils vont imposer à une personne qui a été condamnée. C'est afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, donc on voit là la notion de protection de la victime, et de restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime. La peine a pour fonction, et elle en a deux, la sanction. Sanctionner, ce n'est pas un gros mot. On sanctionne, c'est la première mission. Et la deuxième, évidemment, aussi importante, voire plus, la réinsertion. Donc on voit là que dans la définition même de la peine, il est demandé au juge de prendre en compte les intérêts de la victime, donc d'avoir une ITT qui va permettre de prendre en compte ses intérêts. Il me reste 2 minutes. Parfait. Alors 2 minutes, 2 infractions. Je vais vous parler du délit de harcèlement qui aujourd'hui emporte dans sa définition même, et c'est le code pénal qui le prévoit, puisqu'il n'y a pas d'harcèlement sans préjudice ou sans dégradation de ses conditions de vie qui se traduit par une altération de sa santé physique ou mentale. Donc là, on voit la notion de santé mentale. Et très clairement, ça fait partie, les dossiers de harcèlement, avec certains dossiers d'agression sexuelle et de viol ancien, les plus difficiles pour un procureur dans l'appréciation de la réponse pénale à apporter. Et là, et j'en viens rapidement sur la notion de fonction probatoire de cette ITT et du retentissement psychologique, parce qu'évidemment, présomption d'innocence, parole de l'un contre parole de l'autre, quand on a des infractions qui ont été commises dans un huis clos, il est certain que le certificat médical va être un élément fondamental. Alors certains pourront dire qu'il est détourné ou dévoyé de sa fonction première, mais pas de trace objective de coup, pas de trace objective de violence ou pas de retentissement psychologique. Et une victime qui se dit harcelée ou qui se dit avoir subi des violences psychologiques qui là également sont prévues par le code pénal, sans certificat médical, la procédure s'arrête là, donc ça sera un classement. Même si, et j'en terminerai par là pour la dernière minute, évidemment, la souveraineté des magistrats reste pleine et entière. Je rappellerai un arrêt de la Cour de cassation de 2021 qui est venu infirmer la décision de premier juge qui s'était exclusivement basée, on est là sur une évaluation d'une ITT en fonction, qui était fixée à 45 jours en fonction des faits décrits par la plaignante dont le discours était considéré comme cohérent et compatible. Et la Cour avait requalifié en ITT de moins de 8 jours et la Cour de cassation a dit oui, peu importe le certificat médical qui va établir une ITT de 45 jours, il y a des éléments de contexte complémentaires, on ne peut pas s'en tenir, et en tout cas les juges du fond sont souverains dans l'évaluation de la qualification pénale, et il a été retenu non pas un harcèlement aggravé, mais un harcèlement simple, si j'ose dire, avec une ITT inférieure à 8 jours. Voilà, j'ai rapidement terminé mon intervention, mais je pourrais revenir sur quelques points. Juste un dernier quand même pour le citer, parce que je trouve que c'est intéressant. La Cour européenne des droits de l'homme est venue prendre en compte indirectement cette notion de retentissement psychologique dans une affaire où un gendarme avait tiré et tué une personne qu'il était en charge de transférer parce que cette personne avait agressé le conducteur du véhicule qui le conduisait. Donc on était en état de légitime défense. En tout cas, c'était ce qui avait été avancé. La famille de la victime, donc la légitime défense avait été retenue. La famille de la victime avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme en disant la protection du droit à la vie n'a pas été suffisante parce que la légitime défense peut être contestée et en toute hypothèse, les gendarmes n'avaient pas à tirer sur cette personne. Et dans l'évaluation de la question de la riposte, la Cour européenne des droits de l'homme, je termine par cette lecture, s'agissant de la nécessité donc de la riposte, il peut être admis que l'acte du conducteur a été commandé par l'urgence de défendre sa collègue en train de se faire violenter par un détenu tentant de dérober son arme de service. Et c'est là la partie intéressante. L'examen médico-légal réalisé sur celle-ci juste après les faits révéla en ce sens des contusions sur son tronc, ses membres supérieurs et inférieurs, des lésions de griffure, ainsi qu'un retentissement psychologique nécessitant un suivi. Donc on voit là toute la force de ce certificat médical qui est venu légitimer la riposte en estimant que oui, il y avait un tel degré dans l'agressivité que ça nécessitait une riposte qui est allée jusqu'à la mort du prévenu. Voilà.
Merci beaucoup.